RFI. Grand reportage, Thomas Harms.
Le 16 mars de l'année dernière, les Criméens votaient par référendum en faveur du rattachement à la Russie. Un référendum non reconnu par la communauté internationale. Aboutissement d'une opération de déstabilisation de milices pro-russes appuyées par les services secrets russes visant à remettre en cause la souveraineté de l'Ukraine sur la Crimée. Le 21 mars dernier, Vladimir Poutine signait l'ultime décret d'annexion de la Crimée à la Russie. Depuis, la Crimée vit à l'heure de la russification Crimée. Un an après l'annexion, la russification en marche, c'est le grand reportage de Muriel Pomponne avec Katia Bernikova. Muriel, que l'on retrouve dans 15 minutes pour en parler.
Nous sommes dans une classe ukrainienne d'un lycée de Simferopol. Cette école est l'une des rares où l'on enseigne encore l'ukrainien. En août dernier, une nouvelle directrice, Valentina Lavrik, a été nommée. Elle est un peu débordée.
C'est la première année où nous travaillons sur une implantation des normes fédérales russes. Ce n'est pas facile. Notre école est particulière, elle s'appelait Collège ukrainien. Alors après discussion avec les parents, les professeurs et les enfants, on a opté pour Collège de l'Académie de Simferopol. Jusqu'à l'année dernière, on y enseignait uniquement en ukrainien. Mais après le référendum, on a fait un sondage et désormais, on a une classe en ukrainien pour 4 classes en russe. Nous estimons que nous respectons ainsi les droits des enfants et des parents. Dans les classes où l'enseignement se fait en russe, les élèves qui le souhaitent peuvent apprendre l'ukrainien. En revanche, dans les classes ukrainiennes, l'enseignement de la langue russe est obligatoire car en fin de cycle, il y a un examen obligatoire en langue russe.
Qu'en pensent les parents ?
Mes enfants parlent ukrainien. Nous avons fait ce choix car nous sommes ukrainiens. Nous avons été forcés d'avoir un deuxième passeport russe. Le passeport ukrainien est indispensable. J'en ai besoin pour circuler entre l'Ukraine et la Crimée.
Mon fils est dans une classe russophone et moi je suis tatare de Crimée. Malheureusement, la langue tatare ne fait pas partie du programme scolaire. C'est comme ça.
Initialement, c'était un lycée ukrainien. On pensait qu'il ferait son apprentissage en ukrainien, mais il n'y a plus de langue ukrainienne. Tout est en russe. Il n'y a pas d'enseignement de la langue des Tatars de Crimée et cela nous inquiète.
La directrice nous interrompt. Elle craint qu'on ne parle politique avec les parents. Les Tatars sont des musulmans qui peuplaient la Crimée avant l'arrivée des Russes. Il y a 70 ans, Staline les a fait déporter. Et depuis 20 ans, ils ont le droit de revenir en Crimée et représentent désormais 12% de la population. Mais leurs relations sont difficiles avec les nouvelles autorités russes. Plusieurs personnalités tatars ont été arrêtées ou sont interdites de séjour, dont l'actuel président de leur assemblée traditionnelle, le Mejlis. C'est donc le vice-président, Nariman Djelalov, qui nous accueille. Au fond de la salle, des oiseaux chantent.
Effectivement, la communauté des Tatars de Crimée est très inquiète en ce moment. Au cours de la première année, il y a eu une quinzaine de disparitions et dans certains cas, on peut confirmer que c'était des enlèvements. Alors naturellement, nous sommes indignés par l'absence de résultats dans l'enquête. Et récemment, 3 jeunes Tatars musulmans ont été arrêtés à Sébastopol. Ils sont accusés de terrorisme sous prétexte qu'ils auraient appartenu à l'organisation Hizb ut-Tahrir, interdite en Russie.
Certaines organisations étaient en effet autorisées par l'Ukraine, comme le mouvement Hizb ut-Tahrir, qui est en revanche considéré comme extrémiste et interdit par la Russie. À Bakhchisaraï, l'ancienne capitale tatare, l'ancien chef de l'administration locale, Ilmi Umarov, a préféré démissionner plutôt que de cautionner le nouveau régime.
Dans les mosquées et les médersas, il y a eu des perquisitions pour retrouver de la littérature interdite considérée comme extrémiste. Il y en a eu aussi dans les écoles laïques des Tatars et dans les maisons, avec des gens armés et des voitures des forces anti-émeutes. Chaque fois, les prétextes sont différents. Participation à une organisation religieuse, lien avec des activistes politiques, mais il n'y a aucune logique. C'est pour faire peur. En ce qui concerne l'enseignement en tatar, il y avait 15 écoles. Elles n'ont pas fermé, elles existent. Mais avant, les manuels étaient en ukrainien. Ils ont été retirés et il n'y en a pas de nouveaux. Le ministère de l'éducation russe n'a pas fait la commande. Alors chaque école s'organise comme elle peut.
Et chaque école, à son usage, suit le processus éducatif.
À côté du palais des Khans de Crimée, une dame tient une petite échoppe, la seule de la rue.
Ça va, on vit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas non plus de touristes. Sur le plan économique, c'est très difficile. Sur le plan moral, c'est très difficile. C'est compliqué de faire vivre la famille. Tout est devenu plus cher, il y a l'inflation. Les revenus sont restés les mêmes, parfois même ils ont baissé, mais tous les prix ont été multipliés par 5. Pour la viande, ça doit être même 10 fois, car on l'achetait pour 35 roubles et maintenant c'est 500. Je pense que c'est lié à un problème de transport, c'est devenu compliqué de faire venir les marchandises en Crimée. Est-ce que vous voulez acheter quelque chose ?
Elle n'est pas la seule à se plaindre dans le secteur du tourisme. Sergueï dirige une petite agence qui s'adresse aux étrangers.
Il faut préciser que je travaillais dans le domaine touristique, avec les visiteurs étrangers qui venaient ici pour se reposer. Donc les nouvelles difficultés, c'est d'abord le visa dont les étrangers ont besoin pour entrer en Russie. Ils doivent aussi remplir un tas de documents, indiquer où ils vont habiter, où ils vont se rendre, comment ils vont arriver, ce qu'ils vont faire, le but de leur visite, qui va les accompagner, etc. L'autre difficulté, c'est PayPal et les systèmes de paiements internationaux qui ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de moyen de payer à l'avance. C'est aussi un problème pour les touristes qui doivent venir ici avec de l'argent liquide dans les poches pour payer tout ce dont ils ont besoin.
En effet, il est impossible d'utiliser une carte Visa ou Mastercard dans les distributeurs des banques de Crimée, comme le constate Dasha.
Je prends ma carte Visa de la Sberbank. Je vais essayer de retirer 100 roubles de mon compte courant. Et voilà, la carte ne marche pas.
Alors, comment faire ? Alexis Ladigine propose une solution. Il travaille pour un grand opérateur touristique à Yalta, la principale station balnéaire de Crimée.
Il existe une solution. À Moscou, vous allez ouvrir un compte à la Banque Rossiya, vous mettez de l'argent sur ce compte et ensuite, ici, vous retirez votre argent dans les succursales de la Banque Rossiya.
Mais cette banque, la Banque Rossiya, est visée par les sanctions internationales. Elle fait partie de la trentaine de banques russes qui ont remplacé les établissements ukrainiens. Alexis Ladigine estime que les autorités russes ont bien réagi et il minimise les difficultés du secteur touristique.
Après le référendum, les tours opérateurs les plus actifs sont allés à Moscou. Et là, je peux dire qu'un rôle important a été joué par le gouvernement et la Chambre de commerce de Russie. L'année dernière n'a finalement pas été un échec. Il y a eu un changement de la quantité vers la qualité. De nouveaux touristes sont arrivés. Les hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles ont fait le plein. Sans doute, les problèmes logistiques qui sont apparus ont joué un rôle pour les autres catégories d'hôtels. Ainsi, nous avons perdu les comités d'entreprises ukrainiens et les Biélorusses. Les Biélorusses avaient l'habitude de venir par la route et le train en passant par le territoire ukrainien. Et donc, ça, c'est devenu plus difficile. Avant, la Crimée était approvisionnée par transport routier, c'est ce qui revient le moins cher, et donc tout venait d'Ukraine continentale. Mais vous savez, hier, un premier bateau est arrivé de Turquie avec 400 tonnes de produits alimentaires. J'ai la certitude que c'est un bon début, je crois qu'ils peuvent acheminer jusqu'à 3000 tonnes. Et pour les restaurants, pour une ville balnéaire comme Yalta, c'est tout à fait suffisant.
Les trains ne circulent plus entre l'Ukraine et la Crimée. L'approvisionnement vient de Russie par le ferry du détroit de Kerch. Alexandre Bassov, président de la Chambre de commerce, lui se veut optimiste malgré les coupures d'électricité et d'eau par l'Ukraine.
Environ 80% de l'énergie provenait de l'Ukraine continentale. Quand il y a eu les coupures, le gouvernement a pris des mesures sérieuses pour résoudre ce problème. Hier, j'ai assisté à une réunion gouvernementale où deux accords ont été signés portant sur la construction de 24 centrales thermiques au gaz qui permettront de diminuer notre dépendance énergétique à l'Ukraine de façon significative. Il y a aussi la modernisation de notre centrale de Simferopol qui est en cours, dont la puissance va être multipliée par deux. Vous savez, pendant 20 ans, l'Ukraine n'a rien fait.
Une grande partie des produits de consommation consommés en Crimée provenait de l'Ukraine continentale. Est-ce qu'il y en a encore une part importante qui vient d'Ukraine continentale ?
На данный момент, да, мы Pour le moment, oui, nous sommes encore dépendants des livraisons de l'Ukraine, mais nous cherchons activement à les remplacer par des produits russes. Je crois que d'ici un an, cette question sera résolue, car l'agriculture locale se développe, bien que les Ukrainiens aient diminué les livraisons d'eau. Mais il y a les eaux souterraines. En plus, nous avons des propositions sérieuses de nos partenaires russes et étrangers, notamment les Chinois, pour dessaler l'eau de mer. Leur technologie pourrait être utilisée en Crimée, car la mer n'est pas très salée. Et puis, nous sommes en train de développer des secteurs complètement nouveaux pour notre agriculture. Notre chambre prône le développement de la culture des noix et des noisettes.
Les problèmes d'eau ont contraint la Crimée à abandonner la production de riz et de maïs. La société d'électricité vient d'être nationalisée. Dans l'un des plus grands supermarchés de Simferopol.
Tout est devenu plus cher. Les prix ont augmenté. Ils ont été multipliés par 10 pour certains produits. Et mon salaire n'a pas encore augmenté.
Maintenant, nous n'achetons que des produits russes. Avant, on achetait des produits ukrainiens parce qu'on achetait ce qu'il y avait. Mais maintenant, c'est mieux. C'est essentiellement russe. Pour ce qui est des prix, bien sûr, ils ont augmenté. Nous achetons ce qui est en solde. Les loyers aussi ont augmenté, les charges communales, enfin tout. Il y a des hauts et des bas. Et ça change tout le temps, comme pour le dollar. Et ça ne nous réjouit pas. Mais quand même, c'est mieux en Russie.
Ça n'est pas que ça a changé, c'est devenu vide. Il n'y a pas de pamplemousse, pas de bananes. Donc pour faire mes achats pour la famille, je dois faire plusieurs supermarchés. Ça n'est pas pratique. Bien sûr, les prix ont augmenté. Les produits sont complètement différents. Moi, je préférais les produits laitiers ukrainiens. Une ou deux fois par mois, nous essayons d'aller en Ukraine pour faire des courses. Qu'est-ce qui a changé pendant l'année ? Moi, par exemple, depuis 25 ans, je travaille comme chef comptable. Et pour moi, le changement, ça a été un énorme stress. On s'était habitué à une réglementation, et là, tout d'un coup, il faut tout changer. Ça aurait pu aller vers un mieux, mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je constate. Si vous regardez la comptabilité ukrainienne, elle était plus moderne, plus proche des nouveautés européennes. Alors que maintenant, c'est le retour à l'URSS.
Au quotidien, chacun est obligé de se russifier, ce qui ne va pas sans problème quand on a de la famille en Ukraine. De nombreux Criméens ont deux passeports, de façon à pouvoir voyager en Ukraine. À la faculté des langues, les professeurs espèrent bénéficier du système russe. Mais en revanche, il n'y a plus d'échange avec l'étranger. Nikolai Vovk, professeur d'anglais.
Nous sommes en train de transformer le système d'éducation en Crimée. Nous avons déjà franchi la première étape au 1er janvier avec le regroupement de tous les établissements supérieurs. Et peu à peu, bien sûr ça ne va pas se faire d'un seul coup, nous allons devenir une université fédérale comme les 9 qui existent déjà en Russie. À cause des sanctions qui touchent tout le monde en Crimée, pas seulement le secteur de l'éducation, j'ai entendu dire que les échanges sont difficiles avec les universités étrangères pour certains programme. Mais je pense que c'est une situation temporaire.
Alexandre Petrenko, doyen de la faculté, peu dissert.
Si nos partenaires sont intéressés, nous sommes toujours ouverts au contact. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais dans le passé, plusieurs professeurs ont fait leur stage dans différents pays, y compris francophones. Tout dépend de nos partenaires. Nous sommes ouverts au dialogue.
Vous écoutez une radio du seul groupe de médias audiovisuels privés de Crimée, ATR. Fin janvier, les locaux ont été fouillés par la police. Ce n'étaient pas les premiers soucis de la chaîne, comme l'explique Elzara Islamova, directrice générale.
Sous l'autorité de l'Ukraine, on n'a jamais eu ce genre d'échange avec les forces de l'ordre, avec des hommes armés et masqués. Après l'adhésion à la Russie, un jour, les représentants du parquet sont venus nous voir. Ils nous ont demandé certains documents. C'était surtout un échange de correspondances et d'informations. Au mois de mai, nous avons reçu deux avertissements accusant d'extrémisme deux collaborateurs. Après, en septembre, nous avons été informés qu'une enquête était en cours pour extrémisme et propagande anti-russe. Tout cela a eu un retentissement important, car nous avons fait une déclaration de la part de la chaîne dénonçant les pressions et demandant de quoi on nous accusait exactement. On n'a jamais eu de réponse. En tant que chaîne de télé, nous essayons de donner la parole à tout le monde et nous sommes une chaîne qui n'est pas contrôlée par le pouvoir. C'est ça le problème principal. En ce qui concerne la liberté d'expression, nous sommes la seule chaîne, la seule holding média qui n'est pas contrôlée par le gouvernement de la Crimée. Ils disent qu'ils acceptent la liberté d'expression, mais seulement la liberté d'expression à leur façon, comme eux la conçoivent.
Pour elle, en tant que Tatar, la souveraineté russe sur la Crimée, ce n'est pas seulement un changement d'administration.
Pour les Tatars de Crimée, il y a eu des périodes douloureuses. La déportation, le retour. Mais depuis 20 ans, ça s'était arrangé. Et on se considérait tous comme des habitants de la Crimée. Bien sûr, il y avait des Russes, des Ukrainiens, des Tatars. Mais cette haine, lors de la campagne référendaire en janvier dernier, pour nous, était complètement inattendue. Parce qu'on se considérait tous comme Ukrainiens. Mais en réalité, il y a la moitié, même plus de la moitié des habitants de la Crimée qui se considéraient et souhaitaient être citoyens de la Russie. C'est là que pour nous, il y a eu une grande déception. Et je pense que des gens ressentent une sorte de trahison.
ATR émet en tatar, en russe et en ukrainien. Quelques petites filles répètent en langue tatar un texte qu'elles liront tout à l'heure sur la chaîne pour enfants. Crimée, un an après l'annexion, la russification en marche, un grand reportage de Muriel Pompon avec Katia Bernikova, réalisation Ludivine Amado.
Bonjour Muriel Pompon. Vous évoquez une Crimée avec une forte inflation et un approvisionnement plus difficile qu'auparavant. À quoi sont dues ces difficultés économiques ?
Il y a bien sûr la crise économique qui touche l'ensemble de la Russie. Elle n'épargne pas la Crimée. Mais il y a aussi le coût du transport. En effet, la Crimée est dépendante de l'extérieur pour l'alimentation, l'eau, l'énergie. 80% des produits alimentaires consommés en Crimée provenaient d'Ukraine continentale. Depuis janvier, l'approvisionnement est censé provenir exclusivement de Russie. Concernant l'énergie, la Crimée ne produit que 16% de ce qu'elle consomme. Mais l'Ukraine a réduit ses approvisionnements. Il y a donc eu des coupures, notamment en décembre. Maintenant, ça va mieux. Moscou et Kiev ont signé un nouveau contrat. La Russie doit fournir de l'électricité à l'Ukraine pendant un an et l'Ukraine doit approvisionner la Crimée. Pour l'eau, l'Ukraine a fermé les vannes du canal de Crimée qui achemine l'eau depuis le continent. Et c'est l'agriculture surtout qui a été affectée. La culture du riz a donc été abandonnée, celle du maïs et du soja est remise en cause. Et puis à tout cela s'ajoutent les sanctions internationales qui ont fait que de nombreuses entreprises européennes ou américaines ont cessé de travailler en Crimée. Certaines entreprises russes hésitent à le faire de peur de se retrouver sous sanctions internationales. Les compagnies aériennes internationales n'ont plus le droit de se rendre en Crimée. Ce quasi-blocus a donc provoqué un renchérissement du coût de la vie en Crimée.
Mais alors sur place, comment réagissent les gens ?
Beaucoup de gens sont déçus car ils espéraient un niveau de vie plus élevé en partant du principe que la Russie est un pays plus riche que l'Ukraine. Et les autorités russes avaient beaucoup promis, notamment aux retraités et aux fonctionnaires. Alors si certains revenus ont effectivement augmenté, l'inflation a tout de suite effacé les bénéfices. Et puis la crise a touché la Russie, ce qui n'était sans doute pas prévu au moment de l'annexion. Donc Moscou va avoir du mal à maintenir ses engagements en matière d'investissement. Il faut s'attendre néanmoins à ce que la Crimée soit portée à bout de bras par Moscou. Par exemple, en matière de tourisme, les entreprises russes sont très fortement incitées à envoyer leurs salariés en Crimée. Un opérateur économique de la région m'a confié qu'il s'attendait à une économie très dirigée. D'ailleurs, plusieurs entreprises ont été nationalisées pour compenser la frilosité des investisseurs privés. Et le développement de la base navale de Sébastopol fait partie des priorités de la Russie. Tout ça n'empêche pas une majorité des habitants d'être toujours très contente d'être devenue russe, même si l'euphorie est retombée. Et puis, on entend souvent cette phrase « il n'y a pas la guerre ». Comme une sorte de vision un peu fataliste des choses, les gens regardent la situation dans le Donbass et se disent qu'ils ont échappé au pire.
Dans votre reportage, on entend un responsable tatar. Il estime que sa communauté est victime de répression.
Il y a un lourd contentieux historique entre les Tatars et les Russes qui se ressent encore. Les Tatars portent en eux le souvenir de la déportation de l'intégrité de la population ordonnée par Staline il y a 70 ans. Il y a donc une énorme méfiance. À cela s'ajoute que les responsables de la communauté tatar s'étaient clairement prononcés contre le rattachement à la Russie au moment du référendum. Le gouvernement local est donc à son tour très méfiant vis-à-vis des Tatars et semble avoir opté pour la manière forte. Mais la communauté tatar n'est pas unanime. Certains ont accepté de travailler avec les nouvelles autorités.
Crimée, un an après l'annexion, la russification en marche, c'est votre grand reportage à retrouver sur RFI.fr. Muriel Pompon, merci. Prenez soin de vous, portez-vous bien.